L'auteur et son livre, La technique des trois marteaux. Aujourd'hui, nous recevons Vanessa Fuchs pour son deuxième roman, Au contrebandier, sorti en mars 2007. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Donc, on vous connaît un petit peu déjà. On a fait un premier podcast, c'était l'année dernière, concernant votre premier roman sorti au contrebandier, je l'ai dit tout à l'heure, titré Impur. Donc, en 2006. Donc aujourd'hui, vous sortez La technique des trois marteaux. Pour présenter un petit peu le livre, je vais lire la quatrième. Trêve des confiseurs dans le Finistère Nord. Dans le pays des Monts d'Arrée, un meurtre sordide réveille des légendes d'un autre âge, mais aussi des souvenirs criminels bien moins lointains. L'inspecteur Le Floch, enfant du pays malgré elle, va se frotter à l'acidité de la terre et des hommes pour tenter de découvrir qui se cache derrière des croyances ancestrales et le silence que seul déchire le vent qui court sur le Yonne et l'Aize. Alors, Yonne et l'Aize, j'ai bien prononcé là ou pas?
Oui, c'est bien prononcé.
Parce qu'en fait, ça se passe donc dans le Finistère Nord, comme la quatrième le dit. Mais alors, enfin, moi j'ai une question, pourquoi le Finistère Nord?
Alors, c'est une région très particulière du Finistère Nord, qui est la région des Monts d'Arrée. Le Finistère Nord, parce que c'est une des parties de la Bretagne que je préfère, c'est une région vraiment sauvage et très très authentique, où les gens sont très attachés à leurs traditions, et c'est un peu le sujet auquel se raccroche le roman, justement.
J'ai trouvé que les paysages, le Finistère Nord travaillait les hommes, parce que comme le forgeron travaille le fer un petit peu. Donc, enfin, je sais pas si c'est pertinent comme parallèle, parce que en fait, c'est l'histoire aussi d'un forgeron, enfin, qui travaille le fer, qui fait les chevaux, etc., qui passe dans la technique des trois marteaux. C'est une technique de forgeron, en fait. On va pas dévoiler toute l'intrigue, etc., mais pour poser un peu les choses. Et moi j'ai trouvé que en fait c'était un roman de contraintes, c'est-à-dire que le climat, le Finistère, le paysage, travaillent les gens, et ça c'est un truc que vous faites vachement bien passer, je trouve. C'est les gens qu'on rencontre là-bas, la petite vieille Le Guen, je crois qu'elle s'appelle,
Ouais,
c'est ça?
Mamie de Gaine.
Mamie Le Guen, voilà, entre autres. Et donc oui, c'est pas n'importe quel endroit.
Non, et en plus, d'abord, c'est le point de départ du roman. L'idée de départ, c'est effectivement ces paysages et ces contraintes climatiques qui semblent effectivement modeler et faire les gens un peu à l'image de la dureté et de l'âpreté du climat et des massifs, parce que c'est quand même un petit peu abrupt comme paysage. Et effectivement, il y a des endroits en fait qui ressemblent pratiquement à la Lune, hein, où c'est de la lande battue par les vents, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et les gens vivent quand même là-dessus, essayent de survivre, et c'est un climat qui est rude, qui fait des gens rudes. Et d'ailleurs, c'est un petit passage à la fin du roman où on dit souvent Finistère Nord, terre des vrais hommes. Et effectivement, je suis partie sur cette idée-là au début de montrer cette région très très ancestrale avec ces gens qui, comme ça, ont survécu avec leur tradition, justement parce qu'ils sont ancrés et qu'ils ont besoin de cette lutte face au climat, aux éléments, et qui essayent de faire perdurer ce genre de choses.
À votre avis, ils en ont besoin vraiment ou c'est une contrainte pour eux? Comment ça se passe?
Bah, comme dans tous les pays comme ça, je fais un parallèle aussi avec l'Irlande, qui est un peu mon deuxième pays que j'aime beaucoup. C'est des gens, effectivement, au début, ils ont vécu sous les contraintes et même des fois pire, des famines, des choses comme ça. Et bien après, c'est devenu un espèce de mode de vie, un espèce d'humour qui s'est imprimé là-dedans et une fatalité de la vie qui tourne à l'humour et qui est très très particulier à ces pays-là, justement, à ces régions-là avec des climats très âpres, très rudes, très rudes.
C'est-à-dire qu'après, ils pourraient plus passer de cette contrainte-là.
C'est pas qu'ils pourraient plus s'en passer, c'est qu'ils ont appris à vivre avec et à composer toujours avec et c'est imprimé dans leur façon de fonctionner.
Et alors, dans leur façon de penser et de parler aussi.
Oui, de parler et surtout de pas parler en l'occurrence pour cette région-là. C'est plutôt le petit coup d'œil derrière le rideau.
Et c'est ça qui vous plaît en fait?
Ouais, j'aime beaucoup ça.
Le fait de justement.
De rien dire.
De.
De rien dire, d'observer, de rien dire.
On parle de légende aussi dans le livre. Par rapport à Impur, on était pas exactement dans des légendes, mais quand même dans un passé qui était très, très présent, le passé du quartier du Marais, etc. On a l'impression en fait que les gens sont mal axés, sinon, et que les plus faibles peut-être sont broyés, que les plus forts s'en sortent, mais à quel prix? Et donc dans la technique des trois marteaux, il y a des hommes faibles hein, quand même qui meurent, des hommes plutôt forts et sains qui s'en sortent. Qu'est-ce qu'il faut lire là-dedans? Est-ce que, enfin.
Alors, faut rien lire de politique là-dedans, hein, malgré le contexte actuel. Non, c'est qu'il y a toujours de la mystique dans ce que j'écris. J'arrive pas à m'en défaire et je le cherche pas de toute façon. Je suis assez fascinée par la croyance, par la force que mettent certaines personnes à croire, et certainement parce que c'est pas mon cas. Et en fait, cette ferveur que je peux observer chez des gens par rapport à des croyances, quelles qu'elles soient, que ce soit des croyances païennes ou des croyances religieuses plus classiques, s'il y a une espèce de fascination, je trouve que ça donne une dimension aux gens, et dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Et je l'intègre souvent à ce que j'écris parce que je trouve que ça rajoute quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et bon, une intrigue, on peut deviner, on peut chercher le dénouement, les choses comme ça. Et dès qu'on implique un peu de mystique, on perd le pied. Là, j'ai vraiment été loin dans tout ce qui est mystique, magie, l'histoire des bécasses, etc., les vieilles légendes bretonnes. Mais quand vous allez dans ces régions-là, les gens en parlent encore et c'est intégré au mode de vie. Et ça donne tout ce qui n'est pas maîtrisé, en fait, dans une époque très pragmatique dans laquelle on est, je trouve, donne une dimension supplémentaire et vous évite d'être toujours en sentier battu.
Mais quand vous dites que vous y croyez pas, enfin, vous les respectez au moins, alors?
Bah justement, je suis fascinée même. Je dirais, c'est même plus que du respect. Je suis fascinée par ces choses, par ces gens qui croient si fort à ces choses-là.
Mais entre la fascination, la croyance, vous êtes fascinée par le processus qui fait que ces gens-là vont développer une manière de vivre par rapport à ces croyances-là. Mais est-ce que, enfin, c'est peut-être un peu trop déplacé comme question, mais on croit tous en quelque chose finalement. Enfin, on n'est pas non plus. Peut-être que vous êtes sentez plus proche de ce genre de croyance qu'une croyance déiste ou ce genre
non,
de truc.
Non, c'est dans le sens où c'est une croyance qui est très forte et qui va vraiment s'imprimer sur la personne et qui va conditionner ses réactions. C'est dans ce sens-là. Alors, en bien ou en mal, comme j'ai dit, je suis pas forcément dans le positif là-dedans. Ça peut être justement du très négatif. Et je suis fascinée par comme quelqu'un se sent appelé, en fait, par quelque chose et à faire des choses qui lui sont dictées par l'extérieur. Moi, ça me paraît énorme et je trouve ça qu'il y a matière à faire là-dessus, quoi, en tout cas au niveau de l'écriture.
Parce que donc le roman développe aussi d'une part les légendes et puis de l'autre côté, chose qu'on retrouve aussi dans Impur aussi, les histoires un peu familiales. Est-ce que les histoires de famille ne fabriquent pas des légendes aussi? Est-ce que quelque part on peut pas faire de parallèle?
On peut faire un parallèle dans le sens où c'est des choses qu'on n'a pas forcément choisies. C'est-à-dire on est dans un milieu, dans une culture où il y aura des légendes et il y aura aussi la famille, et c'est un élément non maîtrisable du problème. C'est-à-dire qu'en fait on fait avec. Et dans le cas des personnages du roman, c'est effectivement ça, ils font avec. C'est-à-dire ils ont un passé au niveau de leur contexte culturel qui est différent et au niveau de leur contexte familial également. Et les gens vont gérer et vont vivre avec ça, l'intégrer à leur façon de réagir. Et ça donne une facette du personnage. On ne peut pas se défaire totalement de ce qu'on est et c'est plutôt bien d'ailleurs, je trouve.
Et en fait, ce que je voulais dire plus précisément, c'était par rapport aux non-dits. C'est-à-dire, les légendes, quand on lit une légende, très souvent, quand on lit en creux une légende, on apprend beaucoup de choses. Et je sais que dans les histoires familiales, très souvent aussi, quand on lit en creux, il y a beaucoup de non-dits qui se cachent. C'est intéressant, ça, de parler des non-dits?
Oui, alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est un peu une personnalité qui ressort sur les gens de la région que j'ai choisi de traiter. C'est que c'est des gens qui parlent, qui pensent beaucoup et qui vont pas dire beaucoup. Mais ça les empêche justement pas de penser et de développer des tas de théories et des tas de stratagèmes qui vont faire toute l'intrigue du roman. Et effectivement, on va ajouter à ça les histoires de famille qui vont plus, en fait, le contexte va être comme ça au niveau des légendes et de la culture, plus effectivement au niveau des familles, plus elles vont être traditionnelles et moins on va avoir tendance à parler de façon ouverte de sujets plus ou moins tabous. comme l'avortement ou des choses qui sont évoquées dans le roman. Donc effectivement, ça donne une dimension et ça se rejoint tout à fait. Moi, comme j'ai dit, hein, c'est pas une insulte à l'intervieweur, j'aime beaucoup ces gens en fait qui disent pas et dont on voit par les yeux, par le visage, par une attitude, par un geste en fait ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pensent pas et qui s'expriment comme ça par des non-dits. Je trouve que ça a une certaine noblesse et c'est ce que j'ai voulu faire un peu ressortir dans le roman, en particulier dans le personnage de Madame Le Guin, justement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que enfin, les personnes qui ne s'exprimeraient pas de la même façon pourraient ne pas être comprises ou pourraient ne pas passer. Et c'est un peu la première problématique de Le Floc, en fait. Donc, c'est de son prénom à Akiko. Pour qu'elle commence, en fait, à avancer dans l'enquête, à savoir quoi que ce soit, finalement, il faut qu'elle prenne. J'aurais pas la façon de parler, mais en tout cas la clé qui va lui permettre.
Oui, quasiment un décodeur, en fait. Hein, parce qu'elle arrive formatée façon enquêtrice, citadine, etc. Elle arrive dans un milieu extrêmement rural, un des rares qui reste en France. Il y a quelques creusots comme ça, vraiment très ancrés. Et en fait, il lui faut quasiment, effectivement, au début, un décodeur pour comprendre justement tous les non-dits, toutes les attitudes qui cachent des mots que les gens ne veulent pas exprimer.
Et ça, c'est plutôt marrant de. Enfin, en plus, vous faites assez sobrement, je trouve. C'est pas mal, parce qu'on pourrait se perdre dans la description de gens qui parlent pas, finalement. et je trouve que. Alors, parfois, c'est trop sobre, enfin, mon goût, mais bon, ça, après, c'est les goûts, les couleurs. Mais sur l'essentiel, c'est toujours assez bien cadré. Et l'idée de mettre Akiko Le Floc, alors j'explique en deux mots. Akiko, donc, c'est un prénom japonais. C'est ça. Le Floc, c'est un nom du pays. Elle se retrouve, elle, sur cette enquête parce que, en fait, son supérieur lui dit, en fait, vous appelez Le Floc, donc vous allez pouvoir tirer plus facilement les ficelles de cette intrigue que quelqu'un d'autre. Donc, le supérieur pense que, quand même, le fait d'être un peu breton, ça peut aider à faire avancer l'enquête. Bon, le problème, c'est qu'elle s'appelle Akiko et qu'elle a le profil un peu asiatique. Alors, qu'est-ce que vous a permis de mettre en place ce décalage-là ?
En fait, j'ai imaginé le personnage d'Akiko justement avec des origines bretonnes, mais qu'elle a plutôt renié, puisqu'en fait, ça fait partie d'un passé qu'elle n'aime pas évoquer, qui est celle d'un père qu'elle n'a pas connu, en fait. Et évidemment, mettre un décalage avec cette personnalité, puisqu'elle est franco-japonaise. Et justement, le Japon en particulier, parce que c'est également une civilisation où on utilise beaucoup le langage du non-dit, corporel, et où des gens discrets qui ont le sens du geste, etc. Et justement, par là, sans le savoir, elle se rapproche des gens. Et puis bien sûr, parce que ça va donner quand même une touche d'exotisme qui va la mettre en porte-à-faux au départ avec les gens du cru. Mais finalement... non seulement elle va évoluer dans son attitude par rapport à ses origines bretonnes, mais également cet aspect-là de la personnalité qu'elle ignore, mais qui va agir en elle de façon à plus s'intégrer dans le contexte local.
Oui, enfin, on sent que dans le roman, enfin, il y a deux histoires qui se passent. Enfin, il y a le roman, donc le polar, l'intrigue, et puis il y a son cheminement à elle, en effet, par rapport à ses origines, qui à la fois l'aide et à la fois l'aide pas. Mais c'est en fait comme ça que ça fonctionne, non ?
C'est surtout la problématique d'être sans racine ou avec racine. Et de se dire que finalement, même quand on l'élude, on a toujours des racines quelque part qui finissent par vous rattraper. Et que c'est peut-être pas si mal de temps en temps de s'y attarder un petit peu et de s'en servir hein, au moment opportun. On n'est pas obligé d'être figé et complètement ancré à son terroir et ne pas en bouger et renier tout ce qui y est étranger. Mais d'un autre côté, on peut se servir de ce qu'on a, de ce qu'on a en soi, puisqu'on vient tous de quelque part pour évoluer, et pour penser, pour travailler, ce genre de choses.
En fait, oui, c'est quand le non-dit nous rattrape quoi, un petit peu.
Voilà. De toute façon, on vient de quelque part. On peut pas, même si on se forge une personnalité propre et on s'intègre dans un travail, etc. On a quand même un potentiel. Ça, c'est la scientifique qui va parler, génétique et culturel, qui fait que on n'arrive pas comme ça, comme téléporté d'une planète inconnue. Hein. Il y a un background derrière, et ce background, de toute façon, on va s'en servir un jour ou l'autre. Et elle va dans des circonstances où elle va devoir vraiment de façon impérative s'en servir, mais c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui m'intéresse, donc c'est normal que je le mette dans ce que j'écris.
Bien, merci Vanessa. On conseille évidemment, voilà, la technique des trois marteaux. On conseille Impur en 2006. Et puis, il y a un projet encore, je crois, en route. Vous voulez en parler un petit peu ou...
Je sais pas si j'ai droit, ça. Je sais pas si j'ai droit, j'ai pas eu l'accord. Il y aurait peut-être éventuellement quelque chose en route qui serait pas forcément du polar.
Et qui serait dans le non-dit?
Non, justement, là, c'est pas du tout dans le non-dit. Alors, on va trancher, mais il paraît que c'est pas forcément bon pour mon image de trancher comme ça, passer de l'un à l'autre. Mais c'est une autre façon de...
Pardon, de passer du polar à de
Oui,
la
voilà,
blanche,
il
quoi, c'est
paraît
ça?
que c'est pas moi qui le dis, hein, mais il paraît que en fait,
C'est
les
Antoine,
lecteurs,
quoi,
voilà,
l'éditeur.
voilà, il paraît qu'en fait, les gens ont une image justement assez sectaire, assez tranchée d'un auteur, et ils aiment pas trop qu'on passe comme ça d'un style à l'autre. Ça fait un peu style de polar, ça me gonfle. Et en fait, c'est pas vrai parce que je suis en train d'écrire un autre polar en ce moment, en parallèle avec d'autres choses. Donc, j'aime toujours le polar, je continuerai à écrire des polars, mais il y a d'autres choses qui j'ai envie d'écrire aussi. Donc, j'ai pas envie d'être forcément cantonné à quelque chose, mais enfin, on verra.
Oui, non, je pense que c'est bien de dire on verra et puis de tester sur pièce, quoi. Voilà. Ben, merci Vanessa et puis j'espère à bientôt.
À bientôt, merci.